Voix nue par Pauline Mocor. Toute cette semaine, nous sommes avec
Marie-Hélène Lafont, travailleuse du Verbe.
Deuxième épisode, le mépris et les livres. Bonsoir Marie-Hélène Lafont.
Bonsoir Pauline Mocor.
Nous poursuivons notre conversation entamée hier où nous avons été sur les traces de votre enfance, dans la ferme de vos parents, la dernière habitation au bout du chemin, dont on retrouve les personnages, les odeurs, les paysages dans les livres que vous publiez depuis le début des années 2000. Le soir du chien, Histoire, Les sources, pour n'en citer que quelques-uns. Nous vous avons quitté hier soir en pleine moisson. Et nous vous retrouvons ce soir, jeune adolescente, vous descendez à la ville pour le collège, puis le lycée, au pensionnat de Saint-Flour. Sœur Paul-Marie veille à ce que les soins d'hygiène du corps se déroulent comme il faut. Sœur Paul-Marie, que vous appelez PM, pour pistolet mitrailleur, à cause du bruit que font les anneaux sur la tringle quand elle ouvre prestement le rideau de douche, sans prévenir, pour surveiller que les filles savonnent bien là où il faut.
Fenaison, chère Pauline Mocor, pas moisson, pardon, parce que la moisson à 1000 mètres d'altitude dans la vallée de la Santoire, je ne l'ai pas connue. Il y a eu, à l'époque où tout le monde faisait un peu de blé ou de seigle, certainement des moissons, mais à l'époque où moi j'étais enfant, on ne moissonnait plus rien, on fanait le foin pour les vaches. Et le pensionnat, oui. Alors, c'est amusant parce que j'ai été pensionnaire à partir de la sixième. J'ai toujours su que je serais pensionnaire. On était tous pensionnaires. On partait tous au pensionnat. Mais soit dans le public, soit chez les sœurs. On disait pas le privé d'ailleurs, on disait les sœurs. Voilà. Et la raison pour laquelle les uns allaient dans un collège public à Rueins-Montagne, ou à Allanche, ou à Murat, c'est-à-dire moins loin que Saint-Flour, ou bien se retrouver donc dans ce fameux pensionnat dans lequel je suis allée, la raison pour laquelle l'aiguillage vous conduisait dans un sens ou dans l'autre était très subtile. C'était extrêmement lié à l'appartenance sociologique des familles. Et mes parents, qui étaient donc propriétaires de leur ferme, ont voulu sur ce point en user comme les autres propriétaires de fermes comparables à la leur qu'ils connaissaient. Et les autres propriétaires de fermes comparables à la leur qu'ils connaissaient mettaient leurs filles dans ce pensionnat où ma sœur et moi sommes allés. À Saint-Flour, à 60 km, c'était quand même assez loin. Et c'était perçu comme une façon qui n'était pas tout à fait celle que pratiquaient la plupart des parents, des camarades avec lesquels j'étais à l'école primaire.
Ça vous distinguait?
Oui, ça séparait. On allait chez les sœurs à Saint-Flour. Bon, nous voilà partis, ma sœur d'abord, 2 ans avant moi, et moi ensuite chez les sœurs à Saint-Flour. Alors, chez les sœurs, j'ai adoré ça. Il y avait tout de même des aspects assez contraignants, on va dire. Il y avait le dortoir d'abord, On dormait dans d'immenses dortoirs. Et je me souviens du bruit du dortoir. Ça fait un bruit fou, un dortoir. Les uns parlent en dormant, les autres pleurent, les autres s'agitent, se retournent, etc. Ça fait un bruit fou, un dortoir. Et les mœurs en matière d'hygiène étaient quand même, il faut bien le reconnaître, assez sommaires. Vous avez évoqué cette sœur Paul-Marie, qui est, comme absolument tous mes personnages, créé pièces et morceaux à partir de souvenirs très très précis que j'ai, de telle ou telle religieuse qui nous surveillait. Mais si vous songez que nous prenions une douche par semaine, ça vous donne quand même une idée. Quand j'y repense maintenant, rétrospectivement, ces façons de faire avec le corps étaient tout à fait étonnantes. Et j'ai aimé la vie collective. Ça ne m'a pas pesé du tout, du tout. Et j'ai aimé l'apprentissage. Et la claustration. Ça ne me gênait pas du tout non plus. Et elle était vraiment, au moins jusqu'à la troisième. À partir de la seconde, on avait quelques heures de liberté le mercredi après-midi.
Vous en faisiez quoi?
Ouh, alors, j'en faisais ce que n'en faisaient pas les autres. J'en avais un usage très singulier. Les heures de liberté. Alors, il y avait un café. Il y avait des cafés à Saint-Flour. Il y avait un bar qui s'appelait Les Arcades. Et donc les pensionnaires qui avaient des velléités d'émancipation, qui voulaient fumer des cigarettes et se livrer à diverses excentricités de ce type, se retrouvaient au bar des Arcades. Moi, j'ai dû crapoter une fois ou deux, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ça ne m'intéressait pas du tout d'aller dans les cafés. Je n'avais pas du tout cette envie-là. Donc, les après-midi, en fait, on se séparait. Moi, je n'allais pas avec les autres. J'allais en bibliothèque, où je m'ennuyais copieusement, parce que je ne savais pas trouver les livres. Mais j'y allais, quand même. Je ne sais pas, ça m'impressionnait, ça sentait bon. Et la bibliothèque était située à un endroit où on avait une vue absolument extraordinaire. C'était très, très beau. Très, très beau. Et j'allais aussi chez une vieille dame qui est morte depuis, qui était aveugle. J'allais la voir, lui rendre visite. Nous avions des conversations qui auraient pu paraître un peu étranges pour quelqu'un de mon âge, 15 ou 16 ans, mais que j'aimais beaucoup les conversations avec cette vieille dame aveugle qui était la mère d'une amie. Et cette amie est la dédicataire des Derniers Indiens. Et c'était une amie, et pourtant elle avait 30 ans de plus que moi. Je l'avais rencontrée au pensionnat où elle nous surveillait. Et j'étais entrée dans un lien avec elle tel que j'allais passer du temps avec sa mère, qui était aveugle, avec qui nous parlions, qui me racontait des histoires. Et dans le tiroir de la table, cette amie me laissait un gâteau. Je goûtais, là. Elle est morte maintenant, cette amie. Elle est morte au mois de mars, le 29 mars de cette année, elle est morte. Elle me laissait un gâteau. Souvent une visite andine, ou une tarte, ou un gâteau aux noix qu'elle faisait. Et je mangeais du gâteau avec sa mère.
Et le lien que vous entreteniez avec la fille de cette dame?
Oui.
Il était fait de quoi?
C'est la première de mes mères de substitution. J'ai toujours cherché et trouvé des mères de substitution. Et en fait, j'ai toujours aimé les tribus familiales. Je me suis toujours fait adopter dans les tribus familiales. Ça a été la première dans laquelle je me suis fait adopter, cette tribu. Donc c'était très important pour moi de connaître sa mère. J'aimais ce côté tribu. Tribu paysanne de surcroît parce qu'ils étaient paysans. Ils étaient paysans comme mes parents. Et ils avaient des moutons. Alors ce qui les distinguait totalement. Ils avaient des vaches, mais aussi des moutons. Parce qu'à Saint-Flour, on avait des moutons. Alors que, à 60 km de là, le paysage était différent et on n'avait pas de moutons.
Et ça les distinguait de quelle façon?
Alors, ce qui les distinguait, c'est que leur ferme était grande. Ça, j'ai tout de suite compris. Plus grande que la nôtre. Ils avaient 80 hectares. Et la ferme de mes parents faisait 33 hectares. Et à partir de 1974, mes parents ont loué 18 hectares. Donc, ça faisait 51. Donc, c'était plus grand. C'est des paysans, mais de grande puissance. C'est l'aristocratie paysanne. Je ne sais pas si j'avais ce mot-là, vous voyez, mais oui, ça faisait honneur. Voilà. Et j'avais d'autant plus besoin de ça, c'était d'autant plus roboratif pour moi, que c'est au pensionnat que j'ai découvert qu'on pouvait se faire insulter en se faisant traiter de fils de paysan. Ou de fille, fille en l'occurrence, en ce qui me concerne, de paysan. Et les enfants de paysans composaient une caste un peu à part, et regardés de haut par certains enfants de notables, pas tous. Hein. J'ai gardé une amie très très chère, très très proche aujourd'hui, que j'ai rencontrée en classe de 6e, et qui ne participait pas du tout de ce mépris-là. Hein. Mais certains nous faisaient nettement sentir qu'on était des cutéreux. Quoi. Et ça, ça me rendait sauvage.
Et le mépris, de quelle façon vous l'avez ressenti? De quelle façon on vous l'a fait ressentir?
Alors, très honnêtement, certains professeurs l'avaient, ce mépris. On sentait que chez certains professeurs, on s'attendait, de la part des enfants de paysans, à des performances scolaires modestes. Et quand des enfants de paysans manifestaient des tendances à excéder cette modestie, à en faire craquer les gonds, ce qui était mon cas, on s'étonnait beaucoup. Voilà, l'excellence scolaire, ça n'était pas pour nous. Donc ça, on n'a pas eu besoin de me l'expliquer, je l'ai senti tout de suite, dès que je suis rentrée au pensionnat. Et ensuite, il y avait des propos, tout simplement, des propos de camarades. Hein. Par exemple, sur nos vêtements, la façon dont nous étions habillés. Puisqu'à Saint-Flour, il y avait des magasins où on se devait d'acheter les bons vêtements pour être à la page. Ces vêtements-là, nous ne les avions pas. Et nous avions quelque chose de pire. C'est que, éventuellement, et ça, c'était vraiment terrible pour moi, nos vêtements sentaient. Quand on rentrait le lundi, l'hiver surtout, on était interne. Donc, on arrivait seul vendredi soir, seul samedi, avec du linge à laver. Le linge était lavé, il fallait le faire sécher. On le faisait sécher le plus souvent dans les cuisines, parce que c'était des pièces qui étaient chauffées dans les maisons. C'était des grandes baraques impossibles à chauffer, on n'avait pas forcément le chauffage central, et des buanderies pour faire sécher le linge, vous voyez, en peu de temps. Hein. Et de surcroît, nous étions plusieurs enfants, nous, à la ferme. Donc il y avait beaucoup de linge à faire sécher. Donc le linge séchait dans la cuisine. Donc il s'imprégnait, vous voyez, des odeurs de cuisine, des légumes qui cuisaient pour la soupe, etc. Vous voyez, donc nos vêtements sentaient. Et parfois, nous aussi, on était sortis de la ferme le lundi matin pour prendre le car, vous voyez, et on pouvait avoir un peu de boue, etc., sous nos chaussures. Donc, on pouvait sentir la bouse, quoi. C'était pas systématique, mais on pouvait. On nous le faisait bien comprendre. Et il y avait le bronzage agricole aussi. Alors ça, le bronzage agricole, ça n'a duré qu'une année, l'année de sixième, puisque quand je suis arrivée en sixième, eh bien, j'avais fané, et donc j'avais des marques. La marque des chaussettes, la marque où je devais porter un bermuda ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mes jambes étaient une marqueterie, bien sûr. Et on avait un uniforme pour faire le sport, avec un short atroce, hein, qui moulait le haut des cuisses, qui était horrible. Alors évidemment, la cuisse blanche, le mollet bronzé, et le bas de la jambe blanche. Alors ça vous disqualifiait. Il fallait ramer, il fallait en avoir des bonnes notes et une grande gueule pour faire remonter le curseur de l'honorabilité quand vous aviez le bronzage agricole. Moi, je l'ai eu une année, le bronzage agricole. Hein. Ensuite, toutes les autres années, j'ai fané les jambes entièrement couvertes, entièrement. Plus jamais de bermuda ni de short, plus jamais. Et je portais des chemises à manches longues pour que mes mains, mes poignets, etc., ne soient pas trop marqués aussi par ce clivage. J'avais pris des mesures radicales. C'est vous dire à quel point j'avais intégré quand même. Hein. Donc, elle était assez sévère, l'humiliation.
Et avec ces allers-retours entre la ferme et le pensionnat, est-ce que vous vous sentez devenir peu à peu une étrangère ? Est-ce que le fait d'apprendre des choses, des mots, des pratiques dont vos parents ignorent l'existence, cela vous place face à une sorte de conflit de loyauté ?
Alors, étrangère, oui. Conflit de loyauté, non. Étrangère, oui, mais j'ai presque envie de vous dire que je l'ai toujours déjà été. Ce que j'écris dans... C'est dans les pays. Son père dit à Claire, tu as toujours été une bourgeoise, tu fais pas de bruit en mangeant la soupe. Mon père me disait ça. Quand j'avais 8 ans ou 9 ans, j'étais encore à l'école primaire. Donc, cette sensation d'être des leurs, d'en être profondément, et d'être aussi un corps étranger. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Un corps étranger. Je crois que je l'ai toujours eu. Donc, quand j'entre au pensionnat, évidemment que j'acquiers du lexique et des façons de faire, des façons de voir, etc., qui sont complètement étrangères à la cellule familiale et au milieu familial. Mais je n'entre pas dans un conflit de loyauté parce que, encore une fois, cette distance de l'étrangeté, j'en suis familière depuis la petite enfance. Et aussi parce que j'ai presque envie de vous dire que d'une certaine manière, j'avais peut-être conscience que j'accomplissais le programme des parents. Parce que le père disait, vous irez chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas chez vous. Et ailleurs, le premier ailleurs, c'était le pensionnat. Et j'allais vraiment chercher ailleurs. Et je trouvais ailleurs. C'était pas déloyal, il disait qu'il fallait le faire, je le faisais. Ça ne m'amenait pas à mépriser mes parents. J'avais le sentiment d'étrangeté. Il m'a jamais quitté. Donc, il se déclinait d'une façon différente, c'est tout. Mais ça s'inscrivait dans une trajectoire. Partir. On partirait. Nous, les filles, on partirait.
Et les livres ?
Alors, les livres, aussi étrange que ça puisse paraître, le pensionnat ne donne pas accès aux livres. Les livres, c'est vraiment l'objet du désir, hein, les livres. Pendant toute l'enfance et l'adolescence. C'est le bibliobus à l'école primaire, qui est le premier lieu où je vois que plusieurs livres peuvent être rassemblés dans des rayonnages et à notre disposition, rationnés. On a le droit d'en prendre un quota, il faut les rendre au bout d'un certain temps, ils sont pas à nous. Bon, enfin, ce sont des livres. À la maison, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup.
Lesquels ?
Il y a ceux que la tante de mon père, qui malheureusement meurt quand j'ai 11 ans, ceux qu'elle nous envoyait à Noël, elle nous envoyait des livres. Il y a ceux-là. Peut-être que de temps en temps, ma mère nous en achetait un, mais j'ai pas tellement le souvenir parce que on n'allait pas dans des endroits où on pouvait acheter des livres. Et il n'y avait pas de bibliothèque à ce moment-là. Et quand j'arrive au pensionnat, aussi étrange que ça puisse paraître, dans ce pensionnat où je me sens extrêmement bien, il n'y a pas vraiment de bibliothèque. Alors qu'on y est vraiment très présente, nous, les internes. Hein, on y passe beaucoup de temps. Et j'y ai fait allusion tout à l'heure. Rétrospectivement, c'est une déception. Quand j'accède à la bibliothèque municipale, cette fois-ci, de Saint-Flour, Ville-Haute, quand je suis en seconde, cette bibliothèque, j'ai dû m'y inscrire sans doute, enfin je peux y aller, pendant les heures de liberté, eh bien, je trouve rien. Il y en a trop. J'ai pas d'intercesseur. Je sais pas quoi prendre. J'ai dû emprunter des livres, je ne me souviens de rien. Rien. C'est loin, le livre. C'est loin. Et donc, ça fait l'objet d'une répétition. C'est-à-dire que je relis les mêmes.
Lesquels ?
Poule Rousse, Père Castor. Alors ça, c'est... Encore aujourd'hui, hein, moi, j'aime lire Poule Rousse. J'achète Poule Rousse. J'offre Poule Rousse. Tout récemment, là, est née une fillette qui se prénomme joliment Suzanne. Elle est née la semaine dernière. Je vais acheter Poule Rousse pour Suzanne.
C'est l'histoire de la petite poule qui demande au cochon, au canard...
Ah non, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de Poule Rousse et de son amie la tourterelle, qui s'allie pour déjouer les ruses du renard. Et le renard emporte la poule pour la manger. Et elle réussit, parce qu'elle a toujours son nécessaire de couture sur elle, elle réussit à échapper au renard. Elle roule une pierre dans le sac du renard, elle recoue le sac et elle s'échappe grâce à la tourterelle qui a détourné l'attention du renard. Enfin, je vous passe les détails. Bref. Et la tourterelle et la poule finissent par s'installer ensemble. Chez Poule Rousse. Ça se termine comme ça, par des oukourou, oukourou. Et c'est une idylle, mais moi je ne perçois pas du tout la dimension d'idylle entre Poule Rousse et... Je ne perçois pas ça du tout. Moi, ce que je perçois, c'est que dans la maison de Poule Rousse, tout est propre et bien rangé. Ça, c'est la phrase iconique de la seule lecture d'enfance qui m'est vraiment bouleversée. Dans la maison de Poule Rousse, virgule, tout est propre et bien rangé. Magnifique, magnifique. Je suis pour toujours émerveillée par Poule Rousse. Et je lis aussi, alors ça c'est beaucoup plus fâcheux. Je suis encore à l'école primaire, je ne saurais pas le situer exactement, je dois avoir 10 ans. Ma mère a gagné un livre à l'Ardoute. C'est un livre sur les expériences faites par les médecins nazis sur les femmes à Ravensbrück. Je lis ça. Ma mère a gagné un livre et elle a pu choisir un livre. Et elle a dû choisir celui-là parce qu'elle a dû penser que que c'était une histoire d'amour entre des médecins et des infirmières, etc. Enfin, le titre était... je crois que ça s'intitulait « Les hommes en blanc ». Et donc, je lis ça. Hein. Ça, ça a été... Je comprenais rien et je comprenais tout en même temps. Ça a été une lecture vraiment vertigineuse, ça.
Et vous en avez fait quoi ?
De la culpabilité, d'abord, parce que j'ai pris du plaisir à le lire. J'en ai fait de la culpabilité à G puissant. Vraiment, j'ai été irradiée par ce livre, par cette lecture. Irradiée, complètement. Donc j'en ai fait de la culpabilité. Et j'en ai fait, ça s'est transformé par la suite en un goût qui au départ était un goût morbide et très voyeur, et que j'ai réussi à travailler et à transformer, comme on transforme l'essai au rugby, pour tout ce qui a trait à la Shoah, avant même d'avoir connu le nom, le mot. Vous voyez ? Alors bon, depuis, je suis passée par Primo Levi, Claude Lanzmann... et des travaux d'historiens, etc., évidemment. Mais ça, c'est un trou noir de lecture absolument phénoménal. Phénoménal. Et ce livre, pendant des années, hein, alors que j'étais déjà très très largement adulte, hein, je savais où il était dans la ferme de mes parents. Et je n'y ai jamais touché, je ne suis jamais allée le chercher. Et quand nous avons vidé la maison, avec ma sœur, de nos parents, je l'ai laissé partir. Je pense même qu'il fait partie de ce qui a été brûlé, ce livre.
Et comment vous rencontrez Madame Bovary ?
Madame Bovary ? Ben, je la rencontre en quatrième, par l'école. On nous fait lire, hein, on nous fait lire des choses, on nous fait lire en cinquième, on nous fait lire des contes d'Henri Pourrat, par exemple, vous voyez ? Et plus tard, je ferai une thèse sur Henri Pourrat. On a dû nous faire lire Les Contes rouges et bleus du Chat-Perché, quand j'étais en sixième. C'est là que j'ai contracté le goût de Marcel Aimé. J'adore Marcel Aimé. Et Les Contes rouges et bleus du Chat-Perché. Et donc, en quatrième, j'en garde le souvenir extrêmement précis, notre professeure de français est enceinte. Elle part en congé de maternité au dernier trimestre. Arrive une jeune femme, je pense qu'elle arrive de Clermont-Ferrand. Elle est beaucoup plus jeune que notre professeur de français qui n'est pourtant pas âgé, mais elle est beaucoup plus jeune. Elle a des longs cheveux, blond vénitien, presque roux, très long, plat. Elle a des yeux clairs, la peau très blanche. Elle ne doute de rien. Pouf ! Elle prend la classe de quatrième en main. On est une classe réputée très vive, très, très entreprenante, très... Voilà. Et je me targue d'être le navire amiral, évidemment, dans la classe. Et elle nous fait lire Madame Bovary. Alors, je comprends pas tout, hein. Loin de là, je pense même que ça a dû me passer très très nettement au-dessus de la tête. Mais, j'aime bien employer cette comparaison, moi qui nage à peu près comme une clé à molette, elle nous a jetés dans le grand bain et je ne me suis pas noyée. Je ne me suis pas noyée. Je crois que j'ai dû prendre une sorte de plaisir éperdu et très très sauvage à patauger littéralement dans le texte, happant des bribes, entendant des choses, abasourdies par d'autres, évidemment. Hein. Et je ne me souviens que du sujet de rédaction qu'elle nous a donné. Et c'était donc inventer un avenir pour Berthe à la fin du roman. Puisque tout le monde meurt, Madame Bovary est morte, Charles meurt, c'est même Berthe qui le trouve, il meurt assis sur le banc de la tonnelle adultère, hein, où Emma et Rodolphe se donnaient des émotions. C'est le même banc, c'est la même tonnelle. Hein. C'est là qu'il meurt, Charles. C'est sa fille qui le trouve. Et ensuite, elle est envoyée chez sa grand-mère, qui meurt aussi, la mère de son père. Et je crois que c'est une tante ensuite, hein, qui s'en charge, mais qui est trop pauvre pour la garder chez elle. Et donc, elle est envoyée, Berthe, c'est ce que dit Flaubert, hein, ça se termine comme ça, c'est très sombre. Hein, et d'ailleurs, il passe au présent, si je me souviens bien, il utilise une sorte de présent comme ça, d'infamie définitive. Elle est envoyée travailler dans une fabrique, Berthe. Voilà ce qui arrive à Berthe. Et donc, on nous demandait d'inventer un avenir. C'était faramineux comme sujet. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai inventé. Mais alors, pas du tout, pas du tout. Alors, évidemment, on peut reconstruire. Hein. On peut dire a posteriori que c'était, voilà, la première, non seulement autorisation, mais injonction fictionnelle. Voire même romanesque. Il s'agissait de continuer du roman, d'écrire du roman, d'être dans le roman. Sans doute, sans doute. J'en ai pas conscience, mais je m'en souviens.
Et est-ce que c'est pour accompagner Berthe? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous sentez que les livres, ça va devenir votre pays?
Je crois que je l'ai senti avant. Je l'ai senti à l'école primaire. Et dès le CP, à cause des livres que nous lisait la maîtresse. Vous voyez? Parce qu'avec la maîtresse, au CP, de manière immédiate, dans la même journée, je crois que la cristallisation, j'aime bien employer ce mot que j'emprunte à Stendhal, la cristallisation amoureuse, je crois que la cristallisation s'est produite dès les premiers jours du CP. Parce que on apprend à lire la syllabe babubibobu, le mot dans la phrase dans l'histoire. On apprend à lire le matin et l'après-midi, avant de nous lâcher, de nous laisser rentrer chez nous, la maîtresse prend un livre et nous lit une histoire. Il y a une sorte de processus magique, voyez, qui se met en place, avec des pièces comme ça, d'un puzzle magique qui s'emboîterait les unes dans les autres. Tout ça, dans la, j'imagine, les premières semaines, voyez, d'école. Ça se passe comme ça. Et je crois que c'est là que je me suis dit, c'est pour moi ça, moi je fais ça. D'abord parce que j'y ai un accès immédiat, je ne peine pas du tout. Ça se fait comme par magie. Et je suis à ce titre élu, je suis à ce titre reconnu, je suis à ce titre entouré. Vous voyez, c'est roboratif. Narcissiquement, c'est l'explosion totale, l'école. L'éclate totale, dirait-on, l'école. Voilà. C'est très enveloppant, c'est très rassérénant. Et il y a cet objet-là, le livre, que la maîtresse tient entre ses mains. Et par le truchement du corps de la maîtresse, sortent du livre des histoires. Et avant d'aller à l'école, je n'ai jamais entendu ça. Puisque ça n'est pas du tout spécifique à ma famille, hein, c'est lié à l'époque. On ne lisait pas d'histoire aux enfants à cette époque-là, dans ce milieu-là. Ça ne se faisait pas du tout. Donc la première fois où ça se fait, c'est là. Et moi, j'apprends à lire en même temps. Donc moi, je ferai ça. Non seulement je lirai des histoires, mais j'écrirai des histoires dans les livres.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafon.
Merci à vous.
À demain pour la suite de notre entretien à la même heure. Nous vous suivrons cette fois dans votre migration vers Paris. Bonne soirée, Marie-Hélène.
Bonne soirée.
C'était À Voix Nue, Marie-Hélène Lafon. Réalisation Cécile Lafon. Prise de son Yvan Charby. Chargée de programme Daphné Abgraal. Une série de Pauline Mocor à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.